Bonsoir.
H-5 pour le déconfinement, la levée progressive du confinement. Une partie des Français reprendra demain matin le travail. Tout ce week-end se sont multipliés les appels à la responsabilité de chacun de la part du gouvernement et des médecins. Le port du masque obligatoire dans les transports ne suffira pas. Les sentiments ce soir se partagent entre le soulagement et la crainte, nous l'entendrons. Beaucoup d'entreprises et de commerces vont rouvrir, une partie des écoles également. Les transports en commun de façon très progressive. Nous ferons le point dans ce journal en détail sur ce qui rouvre et ne rouvre pas. Si la France commence son déconfinement, l'Allemagne l'a déjà engagé depuis longtemps avec quelques inquiétudes, on y reviendra. Ce matin, les cérémonies religieuses ont repris, outre-Rhin. Enfin, la météo, les Landes et la Gironde en vigilance rouge aux pluies et aux inondations. 25 départements en vigilance orange, du sud-ouest jusqu'au Grand Est. De fortes pluies sont prévues, qui devraient durer jusqu'à demain en mi-journée, rien d'exceptionnel. Mais les cumuls de pluie ont été et vont être énorme.
Le caractère marquant, c'est la durée de ces précipitations. On est encore du côté de l'air chaud sur la France, mais de l'air froid d'origine polaire atteint en ce moment le Pas-de-Calais et va aller à l'encontre de cette masse d'air chaude et humide. Et ce conflit de masse d'air va provoquer donc des précipitations avec des sols parfois saturés qui peuvent aggraver les dégâts suite à ces forts cumuls de pluie sur la durée.
Voilà, Christelle Robert, prévisionniste à Météo France. En fin de journal, c'est Jean-Michel Golinski qui nous dira la suite.
France Inter.
Déconfinez-vous, qu'il disait. Une partie des Français va donc demain matin refermer la parenthèse ouverte le 17 mars et retourner au travail. Une partie des enfants retourner à l'école après 55 jours de confinement. La semaine sera décisive pour la suite des événements. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, veut faire le pari de l'intelligence et de la compréhension des Français. Il l'a dit ce midi sur France Inter. Au-delà des masques et des tests, c'est le respect des règles de l'état d'urgence sanitaire qui fera la différence et permettra de poursuivre le déconfinement. On va y revenir en détail. D'abord, dans quel état d'esprit sont ce soir les Français? Comment voient-ils cette journée de rentrée du 11 mai? Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous êtes allé les sonder dans ce qui fut un cluster, un foyer de l'épidémie au tout début de l'histoire à Crépy en Valois, dans l'Oise. C'est là que le premier mort français du Covid, un enseignant, avait été enregistré début mars. Et ce soir, Julie, eh bien, toutes les inquiétudes n'ont pas disparu, loin de là.
Chez Céline, par exemple, assistante maternelle qui nous a reçus chez elle, maison avec jardin, dans le centre de Crépy-en-Valois. À l'arrivée du virus, ici, quand les écoles et crèches ont fermé tout début mars, elle a poursuivi un temps son travail avec une angoisse qu'elle ressent encore aujourd'hui. D'autant qu'ici, les assistantes maternelles accueillent souvent des enfants dont les parents travaillent à Roissy, par exemple.
On a eu plusieurs émotions, plusieurs sentiments, de l'inquiétude, de la peur. Avec mon mari, on a considéré qu'on était un peu une population à test. On habite dans une zone où il y a le passage des pompiers. Il y a une période, franchement, ça n'arrêtait pas. Et ça nous a beaucoup angoissés aussi.
Chez elle, tout le monde a été malade. Le couple et les deux enfants de 7 et 15 ans.
Oui, j'ai appris que le premier mort, il venait de Crépy-en-Valois. Forcément, ça tombe sur ma ville.
Parce que habituellement,
on n'en parle pas. C'est oui. Une ville où oui. Il y a beaucoup d'événements.
Oui. Edson et Martial resteront à la maison demain, même si Céline gardera un premier petit à domicile pour son travail avec précaution et appréhension.
Alors la chambre principale, elle est ici. Les parois de tous les meubles sont désinfectées. Les gestes barrières avec les enfants, c'est impossible. Qui sera responsable si un des enfants accueillis tombe malade? Donc je vais les prendre dans les bras, mais je mettrai le masque à ce moment-là et ensuite je l'enlèverai.
La famille qui s'apprête à accueillir des enfants à la maison limitera encore demain et après les déplacements à l'extérieur. Exception peut-être pour quelques courses, cadeaux et gâteaux ce lundi, car ce jour de déconfinement est aussi jour de l'anniversaire du cadet de la famille.
Julie Pietri à Crépy-en-Valois avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Gare en tout cas au relâchement. On a vu en Dordogne et dans la Vienne ce qu'il pouvait provoquer. On le voit aussi en Allemagne où quelques jours après un début de retour à la normale, des signaux inquiétants ont été enregistrés. On n'en est pas là. Ce soir, quel est le sentiment qui domine cette fois à Paris? C'est ce qu'Emmanuel Grabet est allé voir du côté de Belleville.
Franchement, on panique parce que déjà que je vois que les gens ils sortent sans les masques, sans rien. Et ça devrait être un peu plus surveillé. J'ai mes enfants qui doivent rentrer au collège et je les envoie pas.
La réalité du virus, elle est toujours là, c'est juste une date un peu arbitraire. Mais il faut continuer à faire gaffe et puis on est quand même content d'être autorisé à reprendre des contacts avec évidemment les distances qui s'imposent.
J'espère juste qu'on est prêt et que les gens ont pris la mesure, parce qu'on est passé par un processus où on a cherché à faire peur. J'ai pas envie que là, dans un deuxième temps, on mette les gens un peu trop à l'aise ou trop en confiance, et que les gens perdent un peu cette habitude des gestes barrières.
Je crois qu'il y avait un côté cocon, un petit peu protection. On était tous très attentionnés les uns aux autres, presque comme si on se connaissait. Et peut-être là, je me dis, bah, chacun va partir à son train-train, ou en tout cas à son mode de survie. Donc je pense que ça va me manquer.
Voilà des témoignages parisiens donc recueillis par Emmanuel Grabet. Demain, ce sont 400 000 entreprises qui reprennent leur activité, la plupart des commerces, une partie des écoles qui rouvrent leurs portes, des transports en commun qui retrouvent peu à peu leur rythme normal, mais combien, comment et qui, quoi, où. Emmanuel Ruffez, c'est le moment de tout reprendre depuis le début. Alors qu'est-ce qui rouvre précisément demain ?
Alors le but c'est bien de relancer l'économie et de reprendre une activité normale le plus vite possible, en toute sécurité évidemment. Alors effectivement les entreprises redémarrent, ce sont des millions de personnes qui vont retrouver le chemin du travail, même si beaucoup pour ceux qui le peuvent resteront en télétravail. Ce qui sera surtout marquant, c'est la réouverture des commerces non alimentaires jusqu'aux centres commerciaux. Alors ces commerces sont les librairies, salons de coiffure, instituts de beauté, magasins de vêtements pour citer les plus attendus. Et puis en parallèle, les écoles, effectivement, les écoles primaires rouvrent aussi, mais très progressivement. Demain, c'est surtout une pré-rentrée pour les enseignants. Les médiathèques, les petits musées, les bibliothèques peuvent à nouveau accueillir du public en respectant, là encore bien sûr, toutes les règles. Les courses hippiques reprennent elles aussi, mais à huis clos. Ce qui reste fermé, ce sont toujours les restaurants, cafés, bars, les salles de sport, les gymnases, les piscines, les clubs et les discothèques. Et dans le secteur de la culture, aussi très impacté par cette crise sanitaire, fermé toujours les grands musées, les cinémas, les salles de spectacle et les théâtres.
Alors s'agissant des transports, Manuel, c'est une reprise très progressive qui a été annoncée.
Eh oui, la SNCF a publié dès hier ses prévisions de trafic. Sur le réseau transilien, la compagnie prévoit 60% du trafic. Sur les TER, 55%. Pour les TGV, la SNCF prévoit 35% du trafic en moyenne, 25% pour les intercités. Et pour les Ouigo, la circulation assurée à 16% du trafic normal. La RATP, quant à elle, compte assurer 75% de son service. Mais attention, 60 stations sur 300 seront fermées, en particulier la station République. Et comme la règle de distanciation s'applique là aussi, la RATP pourra embarquer beaucoup moins d'usagers par rame, parlant même de capacité d'emport limitée à 15% de la normale.
Manuel Ruffez, le risque c'est que beaucoup de gens fassent du coup le choix de la voiture en provoquant de gros embouteillages. À Paris, si tel devait être le cas, la maire Anne Hidalgo prévient qu'elle demandera la mise en place d'une circulation alternée. De nombreuses pistes cyclables provisoires ont été aménagées, ce qui développera peut-être la pratique du vélo. À mesurer bien sûr dans les jours qui viennent. En rappelant que le masque, s'il n'est pas obligatoire dans l'espace public, sauf à Nice où le maire a pris un arrêté, il est partout recommandé et obligatoire dans les transports en commun. L'amende en cas de manquement reste à 135 €, comme au temps du confinement. Les agents de sécurité des opérateurs de transport seront autorisés à verbaliser, les forces de l'ordre également, bien entendu, mais elles seront là d'abord pour réguler l'ordre public et pas pour contrôler les tickets ou les attestations, comme l'a précisé à midi sur France Inter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Pour Christophe Rouget, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, les policiers auront de toute façon beaucoup à faire, il l'a dit à Emmanuel Leclerc.
Sans doute beaucoup de gens auront peur de la maladie, sans doute beaucoup de gens vont continuer en télétravail et donc espérons que ces règles pourront être appliquées pour que les gens soient protégés, parce que ça sera effectivement difficile pour les policiers d'intervenir partout et tout le temps sur tous ces transports en commun sur l'Île-de-France. Ce ne sera pas notre cœur de métier, notamment dans les transports, mais nous devrons faire appliquer partout ces gestes, dans les commerces, sur la voie publique, autour des gares. Donc nous allons participer à cette prévention, mais aussi essayer de juguler tous les risques qui sont liés à ce déconfinement. La France va du coup être exposée brusquement, de nouveau, à l'ensemble des risques habituels, c'est-à-dire de la circulation, des accidents, de la délinquance, des cambriolages, des trafics, des agressions. On a aussi un risque de rattrapage lié à la perte financière donc des délinquants de tous ordres, notamment des trafiquants de stupéfiants qui ont perdu de l'argent pendant le confinement. Donc on a tous ces risques à gérer. Voilà, nous avons un gros défi à relever dans les semaines à venir.
2000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain sur le réseau ferré d'Île-de-France en soutien aux agents de la RATP et de la SNCF. Précision ce soir du préfet de police Didier Lallemand qui parle de 164 points de contrôle. Par ailleurs, 500 autres policiers et gendarmes seront positionnés sur le réseau routier de la région parisienne. Ce soir, l'épidémie a encore baissé d'un cran dans l'Hexagone. 253 nouvelles hospitalisations, 70 décès en 24 heures. C'est le plus faible bilan depuis le début du confinement. Parmi les oubliés du déconfinement, entre guillemets, figurent en bonne place les cafés-restaurants, on l'a dit. Cafés-restaurants dont le sort devrait être fixé fin mai, pas avant. Tout dépendra de la situation sanitaire, bien sûr, à ce moment-là. Pour les intéressés, en tout cas, les pertes sont déjà énormes. Les syndicats de l'hôtellerie-restauration qui rencontreront demain les compagnies d'assurance, veulent espérer de leur part un geste significatif, Philippe Lefebvre.
Les hôteliers et les restaurateurs espèrent que la plupart des banques et des compagnies d'assurance mettront la main au portefeuille pour prendre en charge au moins une partie de leurs pertes d'exploitation, des pertes estimées aujourd'hui à 10 milliards d'euros. Et pour Laurent Trochin, restaurateur dans les Yvelines, c'est à cette condition que les restaurants ou les brasseries pourront à nouveau ouvrir leurs portes.
On ouvre au 1er juin, au 1er septembre. Ce qui est important, c'est qu'on ait un accompagnement financier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est quand même la base pour que les restaurateurs puissent réouvrir dans de bonnes conditions.
Plusieurs banques ont déjà annoncé avoir débloqué plusieurs centaines de millions d'euros pour leurs clients, mais les compagnies d'assurance, à l'exception de quelques mutuelles, semblent plus réticentes à l'idée d'accompagner les cafés, brasseries ou restaurants. Un mauvais calcul, selon Roland Aigui, le président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie.
Si jamais ils ne font pas ce geste-là, ils perdront énormément de contrats, puisque les entreprises vont défaillir, il y aura des défaillances très importantes par milliers.
Et faute d'un accord, le gouvernement a prévenu, les compagnies d'assurance pourraient alors être contraintes, par voie législative, d'aider ces entreprises.
Philippe Lefebvre, s'il est un secteur en revanche qui aura bénéficié de la période, c'est la production de masques. Elle était quasi inexistante, on ne peut que faire mieux. L'État devrait signer dans les prochains jours un contrat avec 4 entreprises qui produiront des masques à usage unique et permettront à la France de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. C'est ce qu'a dit sur France 3 ce soir la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher.
Nous allons signer 4 de ces contrats dans les prochains jours pour relancer une production de masques chirurgicaux et FFP2 en France avec 4 nouveaux entrants sur le marché. Ça veut dire qu'il y a 2 mois, on fabriquait 3,5 millions de masques par semaine, chirurgicaux et FFP2, et que fin mai, nous fabriquerons 20 millions de masques chirurgicaux et FFP2.
Quand vous dites ça, des nouveaux entrants, c'est-à-dire il y a 4 entreprises françaises.
Notre objectif, c'est d'être à 50 millions.
Et il y a 4 entreprises françaises qui sont, elles
produisent en France avec des emplois français. Et c'est une très bonne nouvelle. Et ça montre, là, nous reprenons la main sur notre destin. Nous ne sommes plus tributaires de pays de production massive qui décident si on peut importer et à quel prix.
Il est 19h13 sur France Inter. C'est la suite du journal Yves Decamp.
La France commence son déconfinement. En Allemagne, c'est déjà fait depuis longtemps, depuis le 20 avril, avec notamment la réouverture des écoles et des restaurants. Faut dire que le confinement n'était pas aussi sévère qu'en France, en Italie ou en Espagne. Ce dimanche, ce sont les cérémonies religieuses qui ont repris outre-Rhin, comme ici dans l'église luthérienne de Stralsund, sur les bords de la mer Baltique. Marie-Pierre Véraud.
Depuis le début du confinement, les cloches de l'église Saint-Nicolas n'avaient plus retenti pour appeler à la messe. Et Susanna n'aurait manqué ce jour pour rien au monde.
C'est un peu comme une rédemption de voir la vie reprendre. En plus, le soleil brille. Il y a pas mal de gens qui viennent à l'église, les jeunes, les vieux. Je trouve ça magnifique.
Certes, les grandes portes de bois restent closes. Il faut entrer par le petit porche sur le côté, avec son masque, bien sûr. Et comme dans les bars et restaurants, se désinfecter les mains. Écrire son nom, ses coordonnées sur un registre, respecter une distance d'un mètre et demi.
La distance me gêne, car il y a beaucoup de gens que l'on revoit pour la première fois depuis longtemps. Et on aimerait pouvoir s'approcher et partager notre bonheur, mais on n'ose pas.
Le pasteur veille à faire respecter les consignes. Sauf une.
Wir haben eine begrenzte Personenzahl, die ist vorgegeben.
Nous devons limiter le nombre de fidèles, mais il nous est aussi recommandé de ne pas chanter. Or, c'est très compliqué.
Le chant, c'est l'âme de l'Église, surtout aujourd'hui.
Et cet office était un peu spécial pour Burkhardt, l'un des fidèles.
Avec ces restrictions liées à l'épidémie, ce qui semblait aller de soi devient précieux.
Comme aller à la messe, il y avait d'ailleurs ce dimanche plus de fidèles que d'habitude à Saint-Nicolas. Stralsund, Nicolas Mathias, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
L'Allemagne qui surveille de très près les nouvelles contaminations dont le nombre est reparti à la hausse dans au moins 3 Länder. En outre, alors que le championnat de foot doit reprendre le week-end prochain, 2 cas de Covid ont été détectés dans l'équipe de Dresde, équipe de 2e division dont les joueurs et le staff ont été placés en quarantaine. Même inquiétude en Corée du Sud où une série de contaminations en discothèque a conduit le gouvernement à les refermer. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, a commenté le président Moon Jae-in pour résumer la situation. En bref, encore à travers le monde, le déconfinement qui commence en Turquie également. Les plus de 65 ans ont pu profiter ce dimanche de leur première sortie depuis près de 2 mois de façon très limitée, quelques heures seulement. Demain vont rouvrir en Turquie les salons de coiffure et les centres commerciaux. Et puis ce soir, c'est Boris Johnson qui doit annoncer son plan de déconfinement pour l'Angleterre seulement. Les autres nations du Royaume-Uni définissent chacune leur stratégie. Le Premier ministre britannique pourrait notamment confirmer l'hypothèse qui circule ces derniers jours d'une quarantaine qui serait imposée aux voyageurs arrivant dans le pays. En sport, on parlait de la Bundesliga dont la reprise pourrait être remise en question si de nouveaux cas de Covid étaient détectés parmi les joueurs. En Espagne, au Portugal également, où les entraînements ont repris, des joueurs ont été testés positifs et placés en quarantaine. En France, où la saison de Ligue 1 est définitivement arrêtée, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, persiste et signe en appelant les autorités du foot à faire marche arrière pour éviter au championnat de France, dit-il, une immense déroute. Cédric Guillou, le président lyonnais qui paraît bien seul sur cette ligne irréductible.
Il faut éviter au championnat de France une immense déroute. Il faut que la Ligue fasse marche arrière. Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais ne digèrent toujours pas l'arrêt définitif du championnat. Après avoir inondé les réseaux sociaux et les médias ces dernières semaines, ils ont publié ce midi un très long communiqué exhortant la Ligue à revenir sur sa décision. Un entêtement qui agace pas mal d'autres présidents de Ligue 1 et notamment Bernard Caillazot, co-président de l'ennemi Saint-Etienne, mais aussi président du syndicat Première Ligue.
Il le fait au nom de son club, c'est son droit le plus strict. Nous considérons que la messe est dite, la grande majorité des clubs est dans une démarche dans laquelle elle n'a pas d'autre choix que d'obéir aux instructions du gouvernement.
Agacé également Loïc Ferry, le président de Lorient, futur promu en Ligue 1, car pour lui, Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais se trompent de cible.
C'est pas la Ligue vers laquelle il faut se tourner vers le gouvernement et vers les mesures qui ont contribué à la décision de la Ligue. L'arrêt du championnat, c'est l'unanimité du conseil d'administration.
Sentant que ce communiqué ferait forcément réagir, l'Olympique lyonnais et Jean-Michel Aulas ont aussi écrit que ceux qui cherchent aujourd'hui la polémique ont tort. Nous les invitons à réfléchir dès aujourd'hui pour le futur du football français et pour l'intérêt général de tous. La bataille des présidents n'est pas terminée.
Cédric Guillou. Dans un instant, la météo humide, très humide de Jean-Michel Golinski, pas vraiment un temps à retourner pêcher. Et c'est dommage, les balades en forêt, les randonnées et la pêche à la ligne seront à nouveau possibles demain. Toujours en respectant les distances, bien sûr, et sans monter à plusieurs sur une barque, par exemple. En fait, la pêche n'était pas formellement interdite, mais les déplacements jusqu'à la rivière ne faisaient pas partie des exceptions recevables. Et donc, tant mieux pour les truites qui ont eu 2 mois de répit. Le président de la Fédération départementale des pêcheurs de Dordogne, lui, est bien content de pouvoir retourner les taquiner et de récupérer ses adhérents.
Tous les ans, à la louche, il y a environ 20 000 pêcheurs. Cette année, on est en perte de 25% des effectifs, ce qui est énorme. Eh bien oui, l'ouverture en première catégorie était à peine faite. Donc effectivement, les pêcheurs exclusifs de première catégorie, pour l'instant, ont été amputés de près de 2 mois de pêche, c'est sûr. Alors effectivement, c'est difficile d'accepter le fait qu'on ait payé une carte de pêche pour être amputé de quelques semaines d'activité. Mais bon, c'est valable pour tous les autres loisirs. Hein. Ne pouvant plus se déplacer à moins d'un kilomètre de son domicile, 95% des gens n'ont pas pu se rendre à la pêche. Et la mesure, on l'a tout à fait comprise. Même si beaucoup disent oui, mais à la pêche, on risque pas de se faire contaminer ou de contaminer quelqu'un puisqu'on y va tout seul, puisque si, puisque là. Mais là, de suite, c'est rentré dans le jeu de cas particulier. Quoi.
Et ce confinement a eu un effet sur la vie des poissons ?
Ah, bien évidemment. Les poissons ont été plus tranquilles. Donc, l'affrai de certains poissons, je pense notamment au brochet, au cendre, aura pu se faire dans de bonnes conditions. Il me reste plus qu'à dire que l'avenir ne sera que meilleur.
Jean-Michel Raveil, le président des pêcheurs de Dordogne, avec Harry Sago.
Tous les animaux vont mieux.
Évidemment.
Ils ont repris du poil de la bête, si je peux me permettre. Dans un instant, le temps.